Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le coronavirus poursuit ses ravages dans les Amériques et touche leurs dirigeants. La présidente bolivienne et le numéro 2 vénézuélien ont annoncé hier l'avoir contracté quelques jours après le président brésilien Jair Bolsonaro, alors que les États-Unis ont battu un nouveau record du nombre d'infections en une journée, avec plus de 65 500 cas supplémentaires recensés. Le nombre total de cas est désormais de plus de 3,11 millions. Et un millier de personnes ont succombé au COVID-19 lors des dernières 24 heures pour un total de 133 195 décès dans ce pays. Le Mexique a également connu un nouveau record quotidien d'infections. Le président Donald Trump a minimisé jeudi ses records quotidiens aux États-Unis. Pour la 100e fois, la raison pour laquelle nous avons tant de cas comparé à d'autres pays qui ne font pas mieux que nous et de loin, est que nous testons beaucoup plus et mieux, a-t-il tweeté. Mais nous sommes dans une situation très difficile, a déclaré hier l'expert en maladies infectieuses et conseiller présidentiel Anthony Fauci. La réouverture du pays a eu lieu en sautant toutes les étapes recommandées, a-t-il critiqué lors d'une téléconférence. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Nous avons besoin de repenser cela et de faire différemment, a-t-il dit. En République démocratique du Congo, 7846 cas, 189 décès et 3513 guérisons. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a porté plainte hier pour diffamation après avoir été mis en cause dans un document affirmant qu'il existe des réseaux mafieux au sein de son ministère pour détourner des fonds alloués à la lutte contre le COVID-19. Ce mémorandum, signé par son vice-ministre de la Santé Albert Mpeti Biyombo, a fuité en pleine crise au sein de la coalition au pouvoir qui se partage les principaux ministères. Le ministre de la Santé vient de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, et son vice-ministre du FCC de l'ex-président Joseph Kabila. Au Sénégal, 143 décès pour plus de 7700 cas de coronavirus et où la pandémie continue de progresser, le président Macky Sall a mis fin hier à 2 semaines de quarantaine après avoir été testé négatif au coronavirus, a annoncé la présidence sénégalaise. M. Sall s'était mis en isolement le 24 juin après avoir été en contact avec une personne atteinte du COVID-19. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, au pouvoir de 2008 à 2019, n'a pas répondu hier à la convocation d'une commission parlementaire devant faire la lumière sur des dossiers pendant sa présidence, a annoncé cet organe. L'Assemblée nationale doit maintenant prendre en plénière une résolution pour soit laisser tomber l'affaire, soit faire une mise en accusation pour son jugement par la Haute Cour de justice, a indiqué le professeur de droit et constitutionnaliste Lo Abdul Gourmo. Ici aux États-Unis, la Cour suprême, dont 2 juges ont été choisis par le président républicain Donald Trump, a infligé hier un revers à M. Trump en jugeant qu'un procureur new-yorkais était en droit de réclamer les archives comptables du président américain, y compris ses déclarations d'impôts, mais a bloqué pour l'instant leur transfert au Congrès. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. États-Unis toujours, après les prestigieuses universités Harvard et MIT sur la côte Est, la Californie a décidé hier de contester en justice la décision de l'administration Trump de révoquer les visas pour les étudiants étrangers dont les cours resteront virtuels à la rentrée. Ils ne seraient pas autorisés à rester sur le sol américain si leurs universités décidaient, pour cause de pandémie, d'enseigner uniquement en ligne à la rentrée d'automne. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. Ensuite de nos informations, au Mali, une des principales organisations de la contestation appelle à un nouveau rassemblement ce vendredi pour réclamer encore la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le point avec Abdourahmane Dia.
La manifestation est maintenue, a annoncé sur sa page Facebook la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Cet appel à manifester se tient au lendemain du discours du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a annoncé un nouveau geste d'apaisement en ouvrant la voie à un réexamen d'une décision de la Cour constitutionnelle sur les résultats des législatives considérées comme un déclencheur de la crise politique. Mais le discours du président Keïta n'a pas convaincu ses critiques. La star internationale de la musique Salif Keïta, qui soutient le mouvement de l'imam Diko, a également appelé à la mobilisation pour ce vendredi. Monsieur Diko, personnalité religieuse très influente, est le personnage central du mouvement du 5 juin, une coalition de responsables religieux et de personnalités de la société civile comme du monde politique qui mène la contestation contre le président Keïta. Le mouvement, actif depuis plusieurs semaines, a fait descendre des milliers de Maliens dans les rues de Bamako à deux reprises en juin. La tension politique suscite l'inquiétude des partenaires du Mali qui redoutent une plus grande déstabilisation du pays, en proie déjà depuis 2012 à des attaques djihadistes mêlées à des affrontements intercommunautaires.
En Côte d'Ivoire, le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va obliger le parti au pouvoir à se trouver un nouveau candidat pour la présidentielle d'octobre. Eric Panirakidza.
Toutes les options sont sur la table, y compris une nouvelle candidature du président Ouattara, a déclaré Adama Big Togo, directeur exécutif du RHDP, à son arrivée à une réunion du conseil politique du parti. Le président se doit d'écouter la base, mais la dernière décision lui reviendra, a-t-il estimé. Élu en 2010, puis réélu en 2015, Alassane Ouattara, 76 ans, avait annoncé en mars ne pas vouloir se représenter, puis fait investir comme candidat Amadou Gon Coulibaly. La constitution ivoirienne limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Le politologue Jean Alabro n'exclut pas un troisième mandat pour Alassane Ouattara, citant aussi Ahmed Bakayoko comme candidat possible et un troisième profil qu'il faut faire émerger. Pour Modeste Goran, professeur de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un parti comme le RHDP réfléchit à toutes les éventualités. La commission électorale indépendante a donné 45 jours aux différents candidats pour le dépôt des dossiers à partir du 16 juillet. Reporter la présidentielle pour des motifs de pandémie de coronavirus ou des problèmes d'enrôlement électoral pourrait être une bonne option pour le parti au pouvoir, indique le politologue Jean Alabro.
Au Nigeria, 35 soldats ont été tués et 30 jours portés disparus dans l'attaque contre un convoi militaire mardi dans le nord-est du pays. Précision de John Linden.
Des combattants présumés du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont tendu une embuscade à des soldats sur une route située à 40 km de Maïdougouri, capitale de l'État du Borno. Un précédent bilan faisait état de 23 soldats tués. Nous avons perdu 35 soldats, 18 sont blessés et 30 sont toujours portés disparus, a fait savoir hier une source militaire sous couvert d'anonymat. Une autre source au sein des milices civiles d'autodéfense qui combattent aux côtés de l'armée a confirmé ces derniers nouveaux bilans. On ignore si les 30 soldats disparus sont toujours en vie ou non, a-t-elle poursuivi. Les djihadistes qui ont fait exploser un char blindé ont également saisi 8 pick-up surmontés de mitrailleuses, du matériel militaire et des équipements de communication. L'armée nigériane a confirmé cette attaque dans un communiqué faisant état seulement de 2 soldats tués et 4 blessés, ajoutant que 17 insurgés ont été abattus.
La Minute Éco, Nani Taladi.
Au Burkina Faso, Endeavour Mining a obtenu un permis d'exploitation pour les gisements d'or de Kari Pump, Kari Centre et Kari Ouest. Ce permis permettra à la société d'atteindre son objectif de produire jusqu'à 250 000 onces d'or à Oundé cette année. L'augmentation de la production d'or, à un moment où le prix de l'or est à la hausse, garantira des revenus plus importants à l'État burkinabé et à la compagnie. Le Tchad a lancé les travaux pour moderniser son réseau de télécommunications. Le gouvernement prévoit la construction d'un centre de données, le déploiement de près de 2000 km de fibres optiques et l'installation de 200 antennes relais GSM sur le territoire national. Il permettra le stockage et le traitement des données numériques de l'État. Le projet dotera aussi le groupe Télécom Sotel Tchad de 200 sites télécom 2G, 3G, 4G et étendra la capacité en nombre d'abonnés de 300 000 à 1 million. Terminons par le Maroc, où la société pétrolière britannique Sound Energy et ses partenaires ont renégocié les termes du contrat d'exploration pétrolière à Anoual attribué le 30 août 2017 dans l'est du pays. Le nouveau cahier de charges prévoit le forage d'un puits l'année prochaine. La première phase d'exploration est désormais de 4 ans. Selon l'ancien contrat, cette première phase devrait expirer le 30 août 2020.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraoug.
Bonjour à tous. Le Sénégal non plus n'ira pas plus loin. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a décidé d'arrêter définitivement tous les championnats. Pas de champion, aucune relégation ni de promotion. En revanche, Teguieff FC, leader avant la suspension, représentera le pays en Ligue des champions. Son dauphin Jaraf sera en coupe de la Confédération CAF. La Fédération sénégalaise de football a aussi décidé d'aider financièrement les clubs. Chaque club de Ligue 1 va recevoir 15 millions de francs CFA et 10 millions pour ceux de Ligue 2. Chaque club de National 1 a 7 millions, ceux de National 2, 3 millions. Les clubs régionaux bénéficieront de 1 million chacun. Pour ce qui est du football féminin, les formations de 2-1 percevront 3 millions chacune et 2 millions pour celles de 2-2. La prochaine saison 2020-2021 sera lancée le 31 octobre. Saison terminée également au Gabon. La Fédération de football a décidé de l'arrêt définitif de sa saison 2019-2020, suspendue depuis mars. La FEGAFOOT a décidé qu'aucune équipe ne va monter en division supérieure ni descendre au palier inférieur. Bouanguidi Sport représentera le Gabon en Ligue des champions CAF, tandis que l'AS Manga Sport sera en Coupe de la Confédération. La FEGAFOOT a aussi promis des aides financières au club grâce au soutien de la FIFA. Et puis les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans vont reprendre, c'est ce qu'a annoncé la CAF qui les avait suspendues en mars dernier en raison du coronavirus. Après les préliminaires, le premier tour des éliminatoires se tiendra entre le 3 et le 12 septembre, puis le deuxième tour en octobre et le dernier en novembre. Ces équipes sont encore en lice pour les 4 places de l'Afrique au Mondial des moins de 20 ans féminin, prévu au Costa Rica et au Panama. Le tournoi devait avoir lieu en août, mais la FIFA l'a reporté pour la période du 20 janvier au 6 février 2021. Et pour finir, le cinéaste italien Paolo Sorrentino a annoncé son retour au grand écran avec « C'était la main de Dieu », un film relatant la mort tragique de ses parents à Naples, à l'époque où le jeune tifo allait voir jouer Diego Armando Maradona. Le titre du film rappelle symboliquement le but inscrit de la main par l'attaquant argentin contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde à Mexico en 1986. La figure de Maradona est restée gravée dans la mémoire du cinéaste qui a déclaré en 2016 au quotidien italien Il Corriere della Sera qu'il devait la vie au champion argentin. À 16 ans, en effet, le jeune Sorrentino obtient pour la première fois la permission de ses parents d'aller voir un match de Naples au lieu de les accompagner dans leur maison de campagne. Ses parents meurent ce week-end intoxiqués, un destin qui relie encore aujourd'hui le réalisateur au joueur.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le président Ibeka propose un accord politique triennal 2020-2023 pour le Rassemblement national. Ibrahim Boubacar Keïta souhaite remembrer la Cour constitutionnelle et faire justice pour les députés recalés aux législatives de mars et avril dernier. Ces propositions ne sont pas bien accueillies. Au M5-RFP, qui organise cet après-midi son troisième rassemblement à Bamako. De leur côté, les partisans du président Keïta ont mis en place une nouvelle coalition de la majorité présidentielle de Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Avec la crise politique actuelle, le président de la République du Mali multiplie les rencontres et fait des propositions de sortie des crises. Lors de son dernier discours à la nation, Ibeka met sur la table un accord politique triennal. Amadou Koïta, membre de la majorité présidentielle.
Le président de la République a fait un discours rassembleur, un discours unificateur. Pour lui, il n'y a pas d'autre option que le dialogue. Le président a proposé un gouvernement d'union nationale à travers un accord de gouvernance de l'Assemblée nationale triennale, qui aura pour mission la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. Le président lance encore une vibrante appel à tout le peuple malien, à tous les enfants de ce pays, et surtout aux responsables des M5, puisque notre pays a besoin de tous ses enfants aujourd'hui.
Les contestataires d'Ibeka et de son régime, réunis au sein du M5-RFP, ne croient plus en le président malien, Maître Demba Traoré, du M5-RFP.
Qui peut croire aujourd'hui un seul instant que le discours servi à la table de minuit, mal décoré et au menu nauséabond contribuera à régler la grave crise multiforme à laquelle notre pays est confronté. Personne, je dis bien personne. La vérité aujourd'hui est que Ibeka n'a jamais été et ne sera jamais, je dis bien ne sera jamais, la solution au problème du Mali.
Pour soutenir le président Ibeka et les institutions de la République, ses partisans viennent de mettre en place une coalition pour le Mali. La CPM est dirigée par Tchémogo Sangaré, président du parti Adema, alors que son porte-parole est Amadou Cham.
Nous, membres de la majorité présidentielle, réaffirmons notre soutien indéfectible au président de la République dans l'exercice de toutes ses prérogatives consacrées par la Constitution du 25 février 1992 et réaffirmons notre attachement à la sauvegarde des valeurs républicaines et des principes démocratiques. Réitérons notre appel à l'endroit M5-RFP à répondre favorablement à la demande de la création d'un cadre de dialogue et de discussion avec la majorité présidentielle conformément à la volonté du président de la République.
Le discours du président Ibeka est loin de trouver des solutions aux préoccupations sociales des Maliens.
Ça n'avait pas de raison d'être. C'est vraiment dommage, mais Ibeka doit se ressaisir et jouer son rôle de chef avant, tant qu'il est temps. Seul Ibeka, face à l'histoire, il sera responsable.
C'était par rapport au mémorandum. L'éléphant attendu est venu avec un pied cassé. On a attendu jusqu'à minuit passé. Et puis c'est pour nous dire que lui, il demande à M5 hein, de mettre un peu de l'eau dans le vin. Donc il faut des solutions réellement qui vont réellement avec la situation actuelle.
Malgré les propositions faites par le président Ibrahim Boubacar Keïta, le M5-RFP a maintenu son rassemblement d'aujourd'hui vendredi avec en toile de fond une désobéissance civile. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, des violences ont caractérisé les marches opposées qui ont eu lieu hier à travers le pays en dépit de l'interdiction du gouvernement en raison de l'état d'urgence et des mesures de prévention du COVID-19. Le secrétaire général de l'UDPS parle de 3 morts à Kinshasa à l'issue des affrontements avec les forces de l'ordre ou du PPRD qui faisaient une marche opposée. Les deux familles politiques en coalition sont opposées quant à la désignation de Ronsard Malonda pour diriger la CENI. Eddie Isango a joint à Kinshasa l'éditeur du journal La Prospérité, Marcel Ngoyi.
Juste des personnes en tant que parti politique peut manifester et les lois du pays garantissent la liberté de manifestation. Ce qu'il faut, c'est l'encadrement. Aujourd'hui, si on peut déplorer les méfaits de cette marche, c'est lorsqu'on va casser les sièges d'autres partis. On va casser les sièges des églises. Ça, c'est mauvais. Si on perturbe l'ordre public, normalement, si l'UDP se comportait comme parti politique, normalement, ce parti serait un parti présidentiel, un parti derrière le président. Or, dans le cas des fêtes, l'UDP n'a jamais changé de camp du point de vue de son comportement. L'UDP est resté comme un parti d'opposition, alors que c'est le parti présidentiel du moment. Et donc, ce sont des faiblesses. Moi, je pensais que l'UDP, dès lors que Félix devient le président de la République, l'UDP devait changer de paradigme. Il passait d'un parti qui recherche la conquête du pouvoir vers le parti qui se bat pour la conservation de ce pouvoir. L'UDP aujourd'hui, qui présente des manifestations, exerce la pression sur la majorité parlementaire contre un certain nombre de décisions, dont celle portant antérieurement de la décision portant le choix sur Malonda, mais aussi les réformes judiciaires qui ont été engagées. Alors, comment ne pas attendre? Je crois que c'est à l'UDP de vous répondre.
Le gouvernement qui est constitué du CASH et du FCC, c'est-à-dire de la majorité qui est au pouvoir, la coalition, a demandé aux dirigeants de deux plateforme de sursoir les marches et plutôt d'aller discuter pour trouver une solution. Pourquoi la coalition n'a-t-elle pas suivi cet appel du gouvernement?
La coalition FCC-CASH a montré ses limites. Ça devient difficile apparemment de regarder la même direction. Depuis qu'on a décidé de faire partie comme on le gouvernement du peuple, c'est terminé, on a secoué le cocotier. Je suis en train de penser personnellement que les deux figures emblématiques de la coalition, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, devraient se mettre autour d'une table pour planifier les divergences, réorienter et même redimensionner cette coalition-là. À défaut de le faire, il faudra recourir peut-être à l'arbitrage d'autres forces, dont les forces de la société civile, ainsi que d'autres cadres politiques du genre des partis qui ne sont pas associés à la gestion, pour voir dans quelle mesure réélargir, trouver un vaste consensus. La problématique, par exemple, de la CENI n'est pas l'apanage de la seule coalition FCC-CAC. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Parce que pour aller aux élections, il faut avoir les électeurs qui viendront de différents partis et de toute la nation entière. Il faut avoir les partis politiques qui présente les candidats et il faut avoir une centrale électorale qui inspire confiance. Le débat là est un débat important qui n'est pas celui de Rontar Malonda seul. C'est un problème de l'avenir du pays. Ça commence à dépasser le cadre purement institutionnel et il faut aller peut-être vers la consultation de la classe politique.
Un rapprochement est possible entre le Lamuka et les CASH, comme il y a des fissures et qui deviennent de plus en plus prononcées au niveau du FCC CASH.
Comment vous pouvez être à la fois au pouvoir dans le cas d'une coalition, c'est vous qui avez la signature, et donc vous voulez même récaler une loi et refuser d'entériner le choix opéré sur Malonda, Félix en a le pouvoir parce que c'est lui qui a la signature. Pour quelles raisons ces combattants devraient-ils aller casser le siège d'autres partis alors que lui a la signature?
Marcel Ngoï, éditeur du journal La Prospérité, joint à Kinshasa.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Selon les Nations Unies, les mines dans les zones de combat en Libye ont fait 138 morts depuis fin mai, dont une majorité de civils. Les analystes affirment que l'accumulation dans les deux camps d'armes fournies par des alliés internationaux pourrait déclencher une guerre par procuration. Reportage de Heather Murdoch à Istanbul, repris ici par Nathalie Barge.
Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux début juin montre un homme assis par terre, le visage ensanglanté. Où suis-je ? Demande-t-il. L'homme qui tient la caméra lui dit qu'il est sur la route de l'aéroport à Tripoli. Sa voiture a sauté sur une mine et son compagnon de route a été tué. Dimanche, une autre explosion a tué deux travailleurs humanitaires qui allaient de maison en maison pour retirer les engins explosifs qui ont été placés jusque dans les habitations lors des combats. Bin Mahmoud, 22 ans, a perdu son ami d'enfance dans l'explosion. On lui a dit que Tariq et ses collègues cherchaient des engins explosifs au domicile d'un homme âgé. Ils en ont trouvé un et l'ont désactivé, mais un autre était caché en dessous et deux des trois hommes ont été tués par l'explosion. Sur 138 victimes, 81 sont des civils et la majorité des autres ont péri lors des opérations de déminage. En février, le service de l'action antimine des Nations Unies avertit que la Libye était infestée d'explosifs qui constituent une grave menace pour les civils. Bob Seddon du service antimine en Libye.
La Libye possède le plus grand stock de munitions non contrôlées au monde. Selon nos estimations, 150 000 à 200 000 tonnes de ces munitions se trouvent actuellement sur le territoire libyen.
Depuis le retrait de Tripoli début juin des forces du maréchal Khalifa Haftar, les forces loyales au gouvernement d'Union nationale ont reçu des quantités d'armes et le soutien militaire d'autres pays. Soutenu par l'Égypte, Haftar est aidé par des mercenaires russes. Si les combats sont moins intenses depuis quelque temps, le décor est toutefois planté pour une éventuelle guerre par procuration entre puissances étrangères comme la Turquie et la Russie.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La Cour suprême des États-Unis a jugé qu'un procureur new-yorkais est en droit de réclamer les archives comptables du président américain Donald Trump, y compris ses déclarations d'impôts. Dans un second arrêt, la Haute Cour a bloqué, dans l'immédiat, la transmission de documents comparables mais par Congrès. Elle a renvoyé cette demande devant les tribunaux, demandant aux juges de prendre en compte une série de critères dans leur évaluation des injonctions parlementaires pour voir si elles sont justifiées. John Lydon a joint le professeur Jean-François Sesnec de l'Université Johns Hopkins. Le professeur Jean-François Sesnec de l'Université Johns Hopkins.
Écoutez, si la décision tient, comme vous le dites, c'est très important parce que ça veut dire que l'Attorney General de New York va pouvoir obtenir des documents que personne n'avait pu obtenir auparavant, ses auditeurs. Donc, on aura beaucoup d'informations sur les transactions financières de Donald Trump avant qu'il soit président, bien sûr, mais des transactions très intéressantes, surtout avec la banque Deutsche Bank. Et savoir peut-être expliquer pourquoi la banque lui a prêté tant d'argent pour si peu de raisons. D'un autre côté, quand même, il faut faire attention que ce qu'a dit la Cour suprême n'est pas si simple. On n'aura pas forcément ces informations avant les élections, parce que la Cour suprême donne le droit au président de pouvoir ramener le cas en justice à un niveau plus bas. Et ça va prendre encore pas mal de temps.
Sur un autre plan également, cette même Cour suprême n'a pas accédé aux demandes des démocrates qui veulent à tout prix avoir les déclarations de revenus de Donald Trump. Comment analyser cette autre décision?
Écoutez, je crois que la Cour suprême, qui a quand même voté à 7 contre 2, donc il y a pas mal de gens des plutôt pro-libéraux, si vous voulez, qui n'ont pas voté dans le sens que les démocrates auraient aimé, mais ils ont dû penser simplement que c'était une décision trop politique, vraiment, pour pouvoir donner raison aux démocrates, et que les démocrates attaquaient le président plutôt pour des causes politiques que pour des causes financières réelles. Je pense que c'est pour ça que la Cour suprême a fait un jugement d'un côté vis-à-vis de l'Attorney General de New York, qui soit un peu différent de celui de ce qu'a demandé les démocrates à Washington. C'était deux cas différents. Et l'un était basé sur le fait que le président n'est pas au-dessus de la loi. Et c'était celui de l'État de New York, bien sûr. Et ça, la Cour suprême a décidé en grande majorité, 7-2 à nouveau, on disait tout à l'heure, que le président n'est pas au-dessus de la loi, alors que du côté démocrate, c'était vraiment vu par les démocrates à New York, enfin les républicains vis-à-vis des démocrates de Washington, montrant que c'était vraiment une affaire politique.
Il est des traditions aux États-Unis que les présidents doivent mettre à la disposition du public la déclaration d'impôt. Pourquoi Donald Trump est si réticent à cette tradition?
Écoutez, c'est pas vraiment une tradition depuis très longtemps, c'est une tradition que depuis 30 ou 40 ans, pas plus. C'est pas une obligation du président. Donc il peut décider de le faire ou pas. Il avait dit qu'il le ferait à un moment, puis il a changé d'avis. J'ai l'impression qu'il ne veut pas donner ses informations financières parce que ce serait assez embarrassant.
Le professeur Jean-François Sesnec de l'Université Johns Hopkins. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sezudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.